La journée finit bien sur Radio Lac.
Avec Benjamin Smadja.
Avec Benjamin Smadja.
On va au cinéma, on va découvrir le nouveau film coécrit et réalisé par Karine Tardieu, c'est L'Attachement. Bonjour Karine Tardieu.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être sur Radio Lac. Un film qui parle, ça paraît un peu vain de le dire, mais c'est vrai qu'il parle de la vie, quoi. Il y a un peu ce côté-là dans votre film.
Oui, j'essaye de parler, en tout cas, des relations entre les gens et la manière dont les interactions qui sont liées, bon là, au début du film, un drame qui se joue, la mort d'une mère et tout d'un coup des gens qui s'agrègent, qui font famille, une famille un peu particulière autour avec ce point de départ.
Excuse-moi, j'ai perdu les os. Comme tu m'avais dit que pour une heure ou deux...
Moi, j'ai dit ça.
Tu connais rien, petit garçon. T'as pas d'enfant.
Je vais me préparer.
Qu'est-ce que je fais, moi?
Je sais pas. Tu veux faire un dessin? Bah, ça veut dire quoi, ça? Oui ou non?
Il faut que je te dise quelque chose de très triste au sujet de maman.
Elle est morte.
Ouais.
Y'a que de l'amour dans ta vie, Alex.
Y'a toi aussi dans mon petit fagot.
Il n'y a pas de jugement dans votre film, on montre tout simplement des gens qui veulent faire du mieux possible.
Oui, c'est vraiment, mais ça c'est assez récurrent dans mes films, c'est-à-dire des gens qui font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils sont, mais ce qui n'empêche pas qu'ils sont parfois injustes, incohérents, voilà, ils sont traversés par des sentiments tellement forts tout au long du film qu'on peut concevoir que parfois ils ne soient pas complètement droits, mais qui font en tout cas, c'est vrai, du mieux qu'ils peuvent, avec ce qu'ils sont, très différents les uns des autres.
Mais après, il y a aussi une manière de le montrer. Je pense à un plan, mais qui est tout simple. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on montre le fait qu'un petit enfant s'attache à sa voisine? Bon, bah, on peut le dire par les mots, on peut le montrer avec de la grande musique, des violons, machin. Ou alors, tout simplement, quand il l'enlace avec ses petits doigts qui ont du mal à se toucher. Et c'est précisément ce que vous faites.
Oui, et il me semble qu'à ce moment-là, le personnage qui s'appelle Elliot, le petit garçon, a comme un instinct de survie, c'est-à-dire qu'il vient de perdre sa mère dans des conditions tragiques, et voilà, il a 5 ans et demi, et il y a cette femme qui habite sur le palier d'en face, qui n'a rien d'une mère a priori, elle est même l'antithèse de la mère, puisque c'est une femme qui se veut libre, indépendante, qui ne veut pas avoir d'enfant, et puis il s'accroche à elle comme on s'accroche à une bouée, et d'ailleurs elle ne sait pas trop quoi faire de cet enlacement, cette manière qu'il a de l'enlacer. C'est compliqué pour elle, c'est pas instinctif, quoi. Et voilà, c'est vraiment pour lui une manière de se raccrocher à la vie. Et c'est ce premier mouvement qui va impacter sur tous les autres, d'ailleurs.
Vous avez l'habitude et le talent pour casser le tabou de l'âge. Je pense à votre précédent film « Les jeunes amants » avec Fanny Ardant qui était venue nous en parler dans cette émission. Ici, c'est pareil, hein, c'est Valeria Bruni Tedeschi qui joue le rôle de cette femme. On peut pas avoir 30 ans et jouer ce rôle, c'est tout simplement impossible.
Bah, tout simplement parce que c'est une femme qui, parce qu'elle a 50 ans déjà, 50 ans passés, a fait des choix dans sa vie et les assume complètement. Déjà, c'est un âge où on ne peut plus avoir d'enfants. Et c'est important dans ce film-là. C'est un âge où finalement... On a fait, enfin, alors est-ce que c'est des choix ou est-ce que c'est des aménagements de vie, mais en tout cas elle pense à ce moment-là de sa vie que l'essentiel, c'est pas que l'essentiel de sa vie est derrière elle, c'est que sa vie est faite, quoi. Voilà, le fait d'être célibataire tout en ayant des histoires de cul et une vraie vie sociale, c'est pas une vieille fille au sens d'une femme isolée, bien au contraire, elle a la sensation d'être bien dans sa vie. Mais c'est vrai que peut-être qu'elle pense qu'à ce moment-là de sa vie, plus rien d'extraordinaire peut lui arriver. Voilà. Mais je crois fondamentalement que tant qu'on n'est pas mort, tout peut arriver.
C'est ce que j'allais dire, c'est fou de voir à quel point aujourd'hui, bon aujourd'hui tout est très polarisé, ça je vous l'apprends pas, mais aujourd'hui il faut être soit maman accomplie qui sait absolument tout faire, ou alors c'est le cliché, c'est ce qui avait été dit aux États-Unis pendant la campagne, de la vieille fille au chat, on n'a plus le droit d'être l'entre-deux.
Bah justement, c'est ce que je veux démontrer, c'est qu'il y a de la nuance possible partout et que on peut être. On est. Enfin, j'ai vraiment du mal moi en ce moment avec justement cette société qui clive et qui met les gens dans des cases et qui fait que tout est cloisonné. Et justement, c'est même le sujet du film. C'est une histoire de voisinage, mais peu à peu, on voit que c'est que les gens ne restent pas chez eux, que les cloisons tombent, les portes s'ouvrent et qu'un entre deux est possible. Et ça reste d'ailleurs la relation que, par exemple, ont ce personnage qui est incarné par Pio Marmaille et celui incarné par Valérie Poniatowski est ambivalent et il n'est jamais complètement clair. Il n'est jamais, est-ce qu'ils vont tomber amoureux, pas tomber amoureux. Il y a toujours, c'est un entre-deux. C'est-à-dire que les sentiments dans la vie ne sont jamais tout noir ou tout blanc. Ça n'existe pas.
Oui, non, c'est sûr que ça se commande pas. Et d'ailleurs, vous disiez, j'aime pas cette société, on veut mettre les gens dans les cases. On peut tout à fait faire des films où on casse le tabou de l'âge et écrire des livres pour enfants. Par exemple, Karine Tardieu.
Ouais, les livres pour enfants, c'est quelque chose que j'ai fait il y a très longtemps et je me considère pas du tout comme une autrice de romans. Enfin, voilà, c'est pas mon endroit. J'ai trop d'admiration pour les romanciers, pour prétendre à quelconque talent d'écriture. Donc voilà, écrire des scénarios, c'est plus mon truc, on va dire vraiment.
J'ai lu, alors je vais être franc, pour moi Wikipédia n'est pas une source, mais j'ai vu sur votre page Wikipédia que vous adorez, en tout cas vous êtes venu à la lecture via les livres de Roald Dahl et que vous aimez tout ce qui est fantastique, c'est vrai ou pas ?
Alors, c'est Wikipédia. C'est-à-dire que, non, mais en fait, j'ai une fille de 8 ans et on est en train de lire ensemble tout Roald Dahl. J'en avais pas lu autant quand j'étais petite parce qu'aujourd'hui, les enfants sont gavés de bouquins, c'est-à-dire que, enfin, ceux qui ont accès à la lecture. Hein. Ma fille a 250 livres dans la maison. Moi, j'en avais 10 et je les relisais en boucle. C'est la grande différence. Mais donc, j'adore Roald Dahl, dont je viens d'apprendre d'ailleurs que c'était un immense antisémite, ce qui est quand même assez. Alors, ça m'empêche pas de. J'ai pas envie de déboulonner la statue, donc je le lis quand même, mais avec un tout petit peu d'amertume malgré tout. Mais voilà, mais pour la littérature, j'ai aimé la littérature fantastique à certains moments de sa vie, j'ai aimé Ray Bradbury, je pense que j'ai aimé m'éloigner de ce monde, on va dire, autant que possible, même si finalement c'est des livres aussi qui nous y ramènent. Mais non, aujourd'hui, je lis plus du tout ce genre de littérature.
Non, mais alors, parenthèse qui n'a rien à voir avec le film, mais vous disiez ceux qui ont accès à la lecture, les bibliothèques sont des endroits extraordinaires. Voilà, je voulais juste le redire dans ce micro. Cependant, la littérature typiquement Roald Dahl, etc., fantastique, qui nous emmène, comme vous le disiez, très loin, et vous faites des films qui nous ancrent dans le réel. On est un peu aux antipodes de ça.
Oui, je m'intéresse aux petites choses et plus qu'aux grandes, quoi. Je sais pas comment dire, c'est-à-dire aux petits détails, au fait, à tous ces petits mouvements humains qui fait qu'on s'agrège les uns aux autres, qu'on se trouve, qu'on peut se parler. Ça m'intéresse plus que la course aux étoiles, je sais pas.
Mais j'ai l'impression qu'on est de moins en moins dans ces petits moments où on est tous les uns avec les autres. J'ai pas envie d'aller dans l'ultra-simplicité, de dire c'est tout de la faute des réseaux sociaux. Avant, c'était tout de la faute de Marilyn Manson. Avant, c'était tout de la faute de la télévision. Mais est-ce qu'on continue d'avoir envie de s'agréger les uns aux autres quand on n'a pas forcément les mêmes opinions ?
Ben, j'ai l'impression que c'est encore possible, qu'il y a des espaces de rencontre et que, enfin, par exemple, en ce moment, enfin, je parle pour la France, je sais pas comment c'est en Suisse, mais les gens retournent beaucoup, enfin, suite au Covid, il y a eu une désertion des salles de cinéma, de théâtre et tout ça, et puis aujourd'hui, les gens se retournent en masse au cinéma, justement, enfin, voir de l'art vivant aussi. Voilà. Donc, j'ai l'impression quand même qu'on a besoin de ça et qu'il y a un mouvement naturel qui fait qu'on certes, enfin, pas moi particulièrement, mais en tout cas beaucoup de gens s'accrochent à leurs écrans. Et il y a un double mouvement, quoi. Je sais pas. J'ai l'impression qu'à chaque mouvement, il y a une résistance aussi qui s'opère, qui est parfois dans le mauvais sens, parce que par exemple sur les mouvements féministes, il y a des courants totalement anti-féministes du coup qui arrivent comme un retour de bâton. Voilà. Mais je crois pas qu'on soit complètement foutu. En fait, si. Je pense qu'on est complètement foutu. Mais j'essaye de me faire croire le contraire.
Il reste des jolis petits moments, comme par exemple ce film d'attachement. D'ailleurs, je trouve que c'est le genre de film, même si on va, et moi j'aime bien aller au cinéma seul, je trouve que ça fait du bien de le voir dans une salle, avec du monde, parce que c'est précisément le sujet sous-jacent du film, le fait d'être avec les gens, et comment on fait famille, comment on fait société, comment est-ce qu'on... tout simplement, on interagit avec les autres sans même des fois le verbaliser.
Mais moi, ça me paraît flagrant. C'est-à-dire que quand je regarde un film toute seule chez moi sur mon vidéoprojecteur, je peux trouver le film bien, mais je peux pleurer éventuellement ou rire. Mais le partage, le fait d'être avec des gens dans une salle, pour peu qu'ils ne soient pas en train de ronfler ou de manger du pop-corn à côté de nous, franchement, je trouve que c'est tellement, tellement plus émouvant, tellement cette sensation comme ça, quand on a vu ensemble quelque chose de beau. C'est marrant, paradoxalement, je crois que j'aime pas forcément trop les mouvements de foule, parce qu'ils peuvent être aussi violents, mais ça peut être beau, une foule qui se réunit pour voir des belles choses, ou qui s'unit contre des mauvaises choses. Enfin, voilà, il y a aussi... c'est formidable.
Vous allez me dire, il est pour tout le monde, mais si on creuse un petit peu, vous l'avez fait pour qui, ce film ?
Alors, je vais très égoïstement, quand je fais un film, je le fais avant tout pour moi, et je suis la première spectatrice du film, et si je ne suis pas moi-même émue, ou si ça ne me fait pas marrer, ou voilà, si je ne suis pas traversée par des émotions quand je le fabrique, ou tout au long de sa fabrication, ça ne vaut pas le coup, quoi. Donc, je ne pense pas tant au spectateur. Le spectateur, ça vient, je me confronte à lui, ou quand le film sort en salle, et que je vais faire des avant-premières, mais dans un premier temps, très égoïstement, c'est pour moi. Après, il est dédié, en l'occurrence, à deux personnes, l'une dont je ne parlerai pas et une autre, c'est ma fille, parce que c'est vrai que je n'aurais jamais fait ce film si je n'étais pas devenue maman. J'ai déjà fait des films qui parlent de la parentalité. Peut-être que je me situais plus du côté de l'enfant à l'époque et plus aujourd'hui du côté de la mère. J'ai écrit ce film en étant en interaction permanente avec ma fille qui avait exactement l'âge du petit garçon du film à cette époque-là. Et ça m'a nourrie. Je suis totalement bouleversée par la parentalité, en fait. Je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire et de tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas. Il y a quelque chose qu'on ignore totalement. Enfin, voilà. Ça veut pas dire qu'il faut absolument avoir des enfants, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Donc, je suis pas une militante, je suis pas pro pro-life, ou je ne sais pas comment dire. Non, c'est pas le bon mot, pro-life, c'est pas pour ça. Mais en tout cas, je me dis quand même parfois que les gens qui ont pas d'enfants ont la chance de pas savoir à côté de quoi ils passent, peut-être.
Ils ont la chance de pas savoir.
Oui, parce qu'il vaut mieux pas savoir à côté de quoi on passe, d'une certaine manière.
Mais parce que c'est vrai que mathématiquement, si on pose les choses comme un bilan comptable, avoir des enfants est une très mauvaise idée. C'est-à-dire qu'on en prend pour 18 ans minimum, ça coûte extrêmement cher d'avoir un enfant, notre vie change, etc. etc. Et c'est pour ça que je pense que c'est très intéressant quand vous dites on ne peut savoir ce que c'est que quand on l'a vécu. En fait, c'est une espèce de saut dans le vide que tout le monde fait depuis le début de l'humanité à peu près, et qu'en même temps, chacun doit faire de son côté.
Oui, je sais pas, c'est le sens de la vie, quoi. Il y a un truc qui fait que même dans les pires conditions, même en temps de guerre, enfin, on continue à faire des enfants, ce qui est un peu fou. Après, moi, j'ai adopté ma fille et j'avoue que je suis assez raccord avec une certaine partie de la jeunesse aujourd'hui qui a du mal à se projeter dans ce monde qui est quand même assez terrifiant j'ai beaucoup de jeunes autour de moi qui ne veulent pas avoir d'enfants parce qu'ils se disent je peux pas mettre au monde décemment un enfant dans ce monde qui part en sucette, quoi. Je les comprends complètement et en même temps, si on veut avoir un tout petit soupçon d'optimisme, je me dis qu'il n'y a que nos enfants qui peuvent nous sauver de quelque chose, pour peu qu'on leur donne une éducation la meilleure qui soit. Après, il y a une surpopulation, donc voilà, on est pétri d'injonctions contradictoires et de paradoxes. Il faut que chacun fasse avec ce qu'il ressent profondément. Je pense qu'il n'y a surtout pas d'obligation de rien du tout. Mais voilà, c'est vrai que mon expérience dans la parentalité fait que tout d'un coup ça donne un sens complètement radical radicalement différent à ma vie. Et voilà, je suis tellement heureuse d'avoir franchi le pas.
Et c'est vrai que votre film regarde aussi ça par le petit bout de la lorgnette, c'est ce qui est toujours très intéressant dans vos films. D'ailleurs, vous disiez, moi je suis très intéressé par la parentalité. Les premiers remerciements, c'est aux parents de César, Kevin et Stéphie, pour leur confiance qu'ils m'ont accordée, leurs attentions, leur présence si discrète, l'ensemble de la figuration, les bébés, leur papa, leur maman, si coopératif.
C'est vrai, parce que notamment donc César Botti, qui est le rôle un des rôles principaux du film, qui avait donc 5 ans et demi pendant le tournage, qui a eu 6 ans sur le plateau, je l'ai choisi évidemment parce que il avait de manière innée une appétence pour le jeu, un goût du jeu vraiment très fort, une qualité d'écoute incroyable. Enfin, il avait énormément de qualités. Et d'ailleurs, il en a pas démordu pendant tout le tournage. C'est-à-dire qu'il avait un enthousiasme incroyable chaque jour à venir sur le plateau. Mais qu'est-ce qui fait que César était si au-delà de sa nature profonde, enfin, qu'est-ce qui fait qu'il était tellement bien dans ses baskets au fond et toujours enthousiaste, c'est qu'il avait des parents formidables qui l'ont à la fois accompagné sans jamais le pousser, qui ne projetaient aucun désir particulier de lui. Enfin, ils avaient, c'est pas du tout des parents qui se disaient mon fils va être un acteur. Ils sortaient du plateau. Enfin, ils étaient quasiment jamais sur le plateau avec nous, sauf de temps en temps. Je leur disais vous pouvez venir aujourd'hui. Je pense que ça posera pas de problème parce que parfois quand les parents sont là, les enfants se comportent plus de la même manière. Et voilà. Donc oui, ça me paraissait évident de les remercier. Un enfant est vraiment en grande partie fait de l'éducation qu'on lui donne et du cadre dans lequel on met, donc dans lequel on le tient et dans lequel on le porte, avec lequel on le porte. Donc voilà, je crois que c'est un petit garçon qui est très bien entouré.
Je suis d'accord quand dans le film il est dit qu'il doit être arrêté pour mignonnerie parce qu'il est hyper mignon ce petit garçon. Comment est-ce qu'on travaille alors avec un enfant avec Valeria Bruni-Tedeschi, Pio Marmaille et puis un nom qui peut-être sonne un petit peu moins dans les oreilles de celles et ceux qui nous écoutent, mais qui est Vima Laponce, qui est une artiste incroyable, qui vient aussi du domaine du cirque, enfin qui fait énormément de choses. Et puisque vous avez dit plusieurs fois l'important c'est de faire famille, ça va au-delà du fait d'être un bon comédien, une bonne comédienne. Je veux dire, faut vraiment arriver à avoir cette émulsion sur le plateau.
Bah, la chance que j'avais, c'est que les acteurs qui, pour certains, se connaissaient, voire très bien, et ils s'entendaient tous très bien sur le plateau. C'est-à-dire, vraiment, il y avait une connexion forte entre chacun d'entre eux. Donc, par exemple, Valeria et Pio avaient déjà travaillé ensemble dans un film de Catherine Corsini, La Fracture. Donc, il n'y avait pas besoin, au début du tournage, qu'ils se reniflent pour faire connaissance, etc. Ils savaient d'emblée et ils jouent très bien ensemble. Il y a une forme de générosité, comme ça, quelque chose qui passe entre eux. Vimala et Pio se connaissaient d'autant mieux qu'ils avaient même eu une histoire d'amour il y a 10 ans de ça. Enfin, donc, pour eux, c'était très simple, c'était assez bouleversant d'ailleurs de se retrouver, mais très simple de refaire couple dans cette histoire. Raphaël Quenard et Pio étaient comme deux larrons en foire sur le plateau. Enfin, et puis en plus, tous très généreux avec l'enfant, parce que bon, après il y a plein de petits bébés sur le film et c'est encore autre chose. Donc toutes ces connexions qui s'étaient faites d'une certaine manière malgré moi, ont vachement participé à l'alchimie qui se passe entre eux dans le film. Voilà.
J'aimerais qu'on termine en parlant d'une journée qui, à mon avis, a été assez intéressante pour vous, le 24 juin 2024. Parce que ce jour-là, sur un site internet, celui du gouvernement français, sont nommés au grade de chevalière ou chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, entre autres, Madame Tardieu Karine, réalisatrice, scénariste, auteur.
Alors, je vais vous décevoir. Ça, pour moi, c'est c'était vraiment, mais non, quelque chose.
Mais ça me déçoit pas du tout.
En fait, je m'en suis mais fichu complètement. Mon père était super content, donc ça m'a fait plaisir que mon père soit super content. Mais vraiment, pour moi, c'est vraiment, je sais pas quoi dire.
Une journée comme une autre.
Une journée plus que comme une autre, c'est-à-dire que ça n'existe pas, quoi. Voilà, il y a mon nom sur une liste de gens, voilà. Et puis, en l'occurrence, je pense que comme je suis une femme. Et qu'en ce moment, c'est bien de mettre les femmes en avant. Enfin, ils se sont dit alors quelles sont les femmes qu'on peut mettre en avant. Voilà, je faisais partie de la liste. Je fais mon 5e film. Je suis pas sûre que les gens qui m'aient choisi aient vu le moindre de mes films. Donc, Bon, voilà, c'est sûrement formidable.
C'est sûrement formidable. Votre film, en tout cas, il l'est. L'attachement, co-écrit et réalisé par Karine Tardieu. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Avec Benjamin Smadja sur Radio Lac.
La journée finit bien.
La journée finit bien.